Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Dans cette émission, liée au 400e anniversaire de la fondation de Québec par Champlain, il faut absolument rappeler la période justement du 17e siècle. Et cette émission porte sur les enjeux franco-anglais au 17e siècle en Nouvelle-France. Et il est étonnant de constater que l'histoire du Canada est encore peu connue. Il faut sans cesse rappeler le courage des Champlain, Frontenac, La Salle, Iberville, Madame de la Peltrie, Grandfontaine, Vibon, Jeanne-Mance, Chambly et de tant d'autres personnages, dont un personnage extraordinaire qui s'appelle le baron de Saint-Castin. Né en 1652 en France, dans le Béarn, et mort en France en 1707. Ce baron de Saint-Castin, il faut bien le dire, est une légende, un homme d'exception, un combattant qui a su influencer le cours des choses. Alors je recommande un livre tout à fait intéressant, passionnant, d'une Québécoise qui s'appelle Marjolaine Saint-Pierre et qui s'intitule « Saint-Castin, baron français, chef amérindien, 1652-1707 aux éditions du Septentrion, donc en 1999 ». Ce français, revenons à lui, originaire du Béarn, qui possédait des ancêtres valeureux, décide à l'âge de 13 ans, c'est-à-dire en 1665, de s'embarquer pour le Canada. L'épreuve fut dure pour ce jeune homme. Cette traversée fut un passage qui le mena de l'enfance à la maturité. Quand une traversée était considérée bonne, écoutez bien cela, c'est qu'elle se soldait généralement par la mort de seulement un cinquième des gens à bord. Donc s'il y avait 200 personnes, eh bien, en moyenne, un cinquième des gens qui étaient sur le bateau disparaissaient. Avec son régiment, le Carignan-Salière, fameux régiment, le jeune Castin débarque à Québec. Il ne connaît rien du pays sauvage qui l'accueille. Il comprend que pour survivre, il faut adopter les vêtements indiens de cuir dur et imperméable, mettre des mocassins. Il faut faire comme les Canadiens, fameux coureurs des bois. 2 ans plus tard, il revient en France avant de retourner au Canada en 1670, et cela en Acadie, donc cette partie située sur la côte atlantique. Il a 18 ans. En Acadie, ou que l'on peut aussi écrire, ça dépend, la, L-A, Cadie, C-A-D-I-E, du XVIIe siècle, était un territoire marginal, forgé par la rencontre d'hommes aux cultures différentes. Français, anglais et hollandais convoitaient ces terres. Il accepte d'accompagner le premier gouverneur d'Acadie, M. de Grandfontaine, et s'installe au fort de Pentagouet, au bord de la rivière du même nom, avant-poste frontière, tampon entre les possessions françaises et étrangères. Il se lie aux Indiens, les fameux Abénakis. Le lieu où il vit est assez fascinant pour un jeune aventurier. De là, on peut rejoindre la capitale de l'Acadie et aussi Québec, soit par mer, c'était très long, soit surtout par terre. Il explora tous ces territoires pour choisir la meilleure route afin de relier les divers postes français. En 1674, Saint-Castin fut fait prisonnier par un corsaire hollandais qui s'acharna sur lui physiquement. Il en souffrit longtemps. Amené à Boston, il refusa de s'allier aux Anglais. On ne sait pas trop s'il s'évada ou fut utilisé comme agent de liaison auprès des autorités de Québec pour rapporter une rançon pour les autres prisonniers. Très vite, à cause de son courage, Saint-Castin eut un énorme prestige. Il devint un commerçant hors pair, aimé des coureurs de bois. Il sut organiser le commerce en Acadie et pour cela commercer avec les Anglais en utilisant certains intermédiaires, mais sans pactiser avec eux. Grâce à lui, les Français en Acadie purent vivre. Le problème de l'Acadie, c'était sa défense. Cette zone servait de tampon entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Aimé des siens, il était également très aimé des Indiens avec qui il vivait. Son ascendant sur les Abénakis permit à la France de conserver l'Acadie. Sans cette alliance avec les Abénakis, il est certain que les Français auraient perdu beaucoup plus tôt l'Acadie. Promoteur de l'alliance franco-abénaki, il réussit plusieurs fois à empêcher les Anglais de s'emparer de l'Acadie et de marcher sur Québec. Seuls les alliés indiens pouvaient rétablir l'équilibre numérique entre les forces françaises et les forces anglaises sur la côte atlantique. Saint-Castin avait compris que c'est en contrôlant le commerce qu'il pouvait espérer établir un puissant empire français en Amérique. Pour les Anglais, les Indiens étaient une race maudite à anéantir. Ils considéraient qu'ils étaient une entrave à leur progrès. L'Indien, lui, ne comprendra jamais ni les lois ni les agissements de ses agresseurs, je parle des Anglais. Le concept de propriété ne signifiait rien pour les Indiens. S'ils signèrent des traités, c'est qu'ils croyaient donner aux Blancs le droit de partage et non de propriété. Les Français avaient adopté une attitude inverse à celle des puritains, donc anglais. En bons chrétiens, si j'ose dire, ils étaient persuadés que le Christ avait apporté la bonne nouvelle à toute l'humanité, y compris aux sauvages. Jésuites et récollets, donc des ordres religieux, s'employèrent à les convertir. La propagation de la foi catholique devint une des forces principales de la colonisation française et la conversion des Amérindiens fut essentielle à la création d'une nouvelle France en Amérique. En général, les Français n'avaient ni le mépris, je l'ai dit tout à l'heure, ni la violence, ni le fanatisme des Anglais. Ils savaient respecter, dans l'ensemble, pas toujours, l'idéal de la liberté personnelle des Amérindiens. Et c'est pourquoi, contrairement à leurs voisins, ils ne cherchèrent pas à les transformer en domestiques ou en esclaves, ni à détruire leur système social ou politique. Certains Français, comme Saint-Castin, des pères missionnaires et des coureurs des bois, apprirent les langues indiennes, adoptèrent leurs aspects et leurs coutumes, et parfois même vécurent comme eux, avec eux, pour éveiller leur loyauté, leur amitié. Ces Français devinrent indispensables dans les jeux d'avoir et de pouvoir qui se déroulaient sur l'échiquier impérialiste de l'époque. Ce furent des agents de liaison entre les deux cultures. En 1674, à l'âge de 22 ans, le baron de Saint-Castin, de son prénom Jean-Vincent d'Abadie de Saint-Castin, aurait pu revenir en France pour gérer ses affaires. Son frère aîné venait de mourir. Au contraire, il préféra rester à Pentagouet pour rétablir l'autorité française en Acadie et créa quelque chose qui ne s'était jamais vu dans les colonies auparavant, un établissement mixte et la fusion des cultures européennes et indiennes. L'habitation qu'il construisit devint le cœur du premier village franco-abénaqui en Amérique. Par ce geste, il concrétisait la nouvelle réalité nord-américaine, un monde métissé. Il prouvait sa grande intelligence, sa capacité d'adaptation et surtout son statut de meneur d'hommes qu'il était déjà. Autour de son habitation, pas moins de 32 wigwams étaient en moyenne installés, ce sont des tentes indiennes, donc cela accueillait, il y avait en général en permanence 160 Indiens. En vivant ainsi, il fallait accepter les différences, manger, chasser, se vêtir comme les Indiens, utiliser les raquettes de frêne blanc et les canots d'écorce de bouleau. L'égalitarisme constituait le point central dans l'organisation sociale et politique des Abénakis. Dans ce système, il était impossible pour un individu de prendre ou d'acheter le pouvoir ou même d'imposer son opinion sur les autres. Si Saint-Castin, devenu capitaine des sauvages, a su être ce qu'il a été, un véritable chef, c'est qu'en plus d'être intelligent, c'était un homme généreux, doué du don exceptionnel de l'éloquence de la parole. Au fil des années, ce Français patriote et courageux se réinventa une nouvelle réalité située quelque part entre le monde sauvage des Blancs et le monde civilisé des sauvages. Saint-Castin prit pour maîtresse une des filles du grand sachem de Abénaki qui s'appelait Madokawondo, le plus important des chefs indiens entre la rivière Saint-Jean et la rivière Kennebec, et cette jeune fille s'appelait Pidianske. Elle lui donna deux filles, Claire en 1671 et Marie-Thérèse en 1677. Et puis, quelques années plus tard, coup de théâtre amoureux, Saint-Castin aima une autre fille du grand chef. La légende populaire dit qu'il s'agissait d'un amour fou. Cette fille, qui s'appelait Melchide Missouk-Cossier, resta dans sa vie. C'était une merveille. En 1678, une fille naquit, elle s'appelait Cécile. Il l'aurait épousée, cette femme, en union libre devant les anciens du village. Ce fut une grande fête. on se régala de soupes et de ragoûts à base de poissons, de crustacés, de tortues, de chair de mammifères et d'oiseaux sauvages, de viande et de poissons fumés ou grillés, en plus de citrouilles, de fèves, de maïs, d'artichauts de Jérusalem, du riz sauvage, délicieux riz sauvage au Canada, de noisettes, sans parler bien sûr des discours, de la musique, des danses et des jeux. Ses ennemis anglais, les ennemis anglais du baron de Saint-Castin, essayèrent en vain de le discréditer. Quant aux autorités françaises, elles voulurent qu'il se marie religieusement, ce qu'il fit, dit-on, en 1684. D'autres sources plus fiables donnent la date du 15 octobre 1688. Le couple avait déjà 4 enfants, dont plusieurs fils. Saint-Castin, comme commerçant, joua un rôle considérable, car la France, se désintéressant peu à peu de l'Acadie, condamna cette nouvelle terre à se développer en vase clos. Sans capitaux, il fallait faire du troc. Vu la faiblesse de la population, il n'y eut jamais en Acadie de classe marchande. Sans le dire ouvertement, pour vivre, il fallait commercer avec les Anglais. L'habitation de Saint-Castin devint un centre commercial fort important. On calcule que jusqu'à 80 000 livres de fourrure pouvaient, livres donc de poids de fourrure, pouvaient aboutir chez lui chaque année. Saint-Castin réussit à s'entendre avec un bostonien, John Nelson, personnage tout à fait intéressant, qui parlait le français et l'algonquin, mais contrairement à l'anglais Nelson, Saint-Castin voyait au-delà de sa réussite personnelle, il voulait la survie des peuples abénaquis et acadiens. Toute sa vie, cet homme généreux sauva plus d'une fois ses amis acadiens, indiens et missionnaires des pénuries qui accablaient leur existence de marginaux. Pendant 30 ans, Saint-Castin vécut l'intolérance des Anglais qui réclamaient le droit au libre arbitre, mais le refusaient aux autres. De 1689 à 1698, les marchands puritains essayèrent de réduire l'influence du baron, conflit entre les valeurs des anciens et l'appât du gain, un défi de taille. Louis XIV fut personnellement informé du rôle tampon qu'exerçait le capitaine des Abénaquis, c'est-à-dire le baron de Saint-Castin, sur les frontières de l'Acadie et de la Nouvelle-Angleterre. L'Acadie, en 1687, n'avait, tenez-vous bien, que 885 habitants français. 885. Les Anglais, pour déstabiliser les Français qui étaient si peu nombreux, poussèrent les Iroquois à les attaquer. De nombreux combats s'ensuivirent. De 1689 à 1698, on appela cette guerre la guerre de Saint-Castin, c'est dire l'importance de ce baron français installé, disons, près de la Nouvelle-Angleterre. Donc la guerre de Saint-Castin qui fera couler le sang, surtout anglais, pendant plus de 10 ans. Saint-Castin savait miser sur la rapidité, la mobilité, le camouflage et le temps, sur la force stratégique plus que tactique. Ses hommes, la plupart, c'était des Indiens abénaquis, étaient très bien armés. Il avait réussi à faire accepter par les Indiens la notion de groupe. Il était devenu un grand meneur d'hommes. Stratégiquement parlant, il avait mis sur pied un réseau d'espionnage qui le tenait très bien informé sur les ennemis hollandais, anglais et iroquois. Il pratiqua une forme de guérilla avant la lettre, il faut bien le dire. Un autre livre aussi intéressant à lire sur cette période et cette guerre, si vous voulez, entre les Anglais et les Français, le livre de Robert Sauvageau, qui s'intitule « Acadie, la guerre de 100 ans des Français d'Amérique aux Maritimes et en Louisiane, 1670-1769 » et ça a été publié à Paris, chez Berger-Levrault, en 1987. À la fin du XVIIe siècle, donc revenons à cette période, chaque pays d'Europe luttait surtout pour étendre ses limites, assurer ses frontières, acquérir des territoires outre-mer et avoir sa juste place dans le commerce mondial. Et la figure centrale de cette vaste lutte de pouvoir demeurait le roi Soleil, Louis XIV. Sûr de son autorité et possédant l'armée la plus puissante en Europe, 280 000 soldats permanents, donc voilà la situation en Europe, Saint-Castin, lui, en 1689, était en première ligne puisque la France et l'Angleterre étaient en guerre. Le baron inspiré beaucoup de peur chez ses ennemis, les fortins anglais tombaient les uns après les autres et Saint-Castin et ses troupes semèrent la terreur dans le Maine. Au moins 15 places fortes ou villages furent pris ces années-là. Les Anglais essayaient avec beaucoup de difficultés de contenir les attaques des hommes du baron. Pour se venger, ces derniers, avec leurs alliés iroquois, toujours en 1689, attaquèrent en Nouvelle-France le village de Lachine au lieu des massacres près de Montréal. Ce fut la deuxième guerre iroquoise de 1687 à 1695, sur laquelle nous allons revenir dans un petit moment. je poursuis mon émission sur Saint-Castin, baron français, chef amérindien, et dont je recommande bien entendu le livre de la Québécoise Marjolaine Saint-Pierre, qui s'intitule « Saint-Castin, baron français, chef amérindien, 1652-1707 », publié en 1999 aux éditions Septentrion à Montréal. Alors, nous sommes à la fin du XVIIe siècle, et les Anglais deviennent très agressifs, voulant absolument étendre leur territoire, et le roi, c'est-à-dire Louis XIV, demande à Frontenac de retourner en Nouvelle-France, et Frontenac, âgé tout de même, ne l'oublions pas, de 70 ans, accepta avec enthousiasme l'offre du roi. La nouvelle charge de gouverneur général de la Nouvelle-France. Dès 1690, le vieux gouverneur organisa trois raids surprises contre les Anglais, à Corlaar, à Salmon Falls et Casco, en Nouvelle-Angleterre. Les trois offensives nécessitèrent des raquettes, on était en plein hiver. Il y eut trois colonnes. La première colonne, forte de 210 hommes, dont 96 Amérindiens, était dirigée par Jacques Lemoine de Sainte-Hélène. Ce fut une victoire. Corlaar fut mis à sac. La deuxième colonne, de 52 miliciens, incluant 20 Abénaki, dirigée par Joseph-François Hertel de Lafrenière, partie fin janvier, vous imaginez le froid qu'il faisait à cette époque, elle arriva sur son objectif de Salmon Falls fin mars, donc deux mois de pérégrination. Le village fut mis à sac, victoire encore. La troisième colonne, forte de 50 Canadiens et de 60 Abénaki, était dirigée par le baron de Portneuf, M. René Robineau de Bécancour. Saint-Castin se joignit à eux avec 400 à 500 Indiens. Spectacle impressionnant d'après quelques personnes de l'époque. Le fort loyal à Casco Bay fut rasé. Succès total, raid meurtrier pour les Anglais. Les colons anglais étaient moralement atteints. Ils eurent l'impression que les Français et leurs alliés avaient promené le fer et le feu à travers toute la Nouvelle-Angleterre. En 1690, en représailles, les Anglais décidèrent d'attaquer Port-Royal en Acadie. À leur tête, Sir William Phipps. Les Français ne purent résister longtemps, stimulés par leur victoire, à vrai dire facile. Port-Royal, la capitale de l'Acadie, était tout juste défendue par 72 Français. Phipps décida d'attaquer la ville de Québec en Nouvelle-France. Saint-Castin avait prévenu la garnison. Frontenac refusa de se rendre. Fiasco total pour les Anglais. L'amiral perdit 400 hommes sur ses 1500 hommes de troupes contre 6 morts du côté français. Et sur le voyage du retour, une terrible tempête s'acharna sur sa flotte, détruisant plusieurs navires et tuant 600 hommes de plus. Il revint à Boston, penaud, avec un tiers de ses effectifs. À Québec, on chanta le Te Deum et on nomma l'église de la Basse-Ville Notre-Dame de la Victoire pour remercier Dieu et la Sainte Vierge de leur divine protection. Il y avait de quoi. L'Acadie, zone tampon, était devenue une pièce maîtresse dans une lutte gigantesque pour la possession de tout un continent. Mais pour survivre dans ce rude pays, Saint-Castin était prêt à certains compromis. Un juste milieu entre sa loyauté à la couronne de France et son commerce obligé avec les Anglais. L'Acadie n'avait pas la population de la Nouvelle-France. Il avait donc ses intermédiaires et espions, comme nous l'avons dit un peu plus haut. Les échanges commerciaux étaient clandestins et le baron savait y faire. Il était fort bien approvisionné, ses Indiens aussi. Si l'histoire du baron nous intéresse encore, c'est qu'il était un homme de pouvoir. Il a donc joué un rôle de premier plan dans l'histoire de l'Acadie du XVIIe siècle. La force des Français à cette époque, c'est leur relation avec les Indiens et la faiblesse des Anglais, c'est d'avoir plusieurs gouvernements qui n'arrivaient pas à s'entendre. Nous en arrivons au traité de Ryswick en 1697 qui apportait la paix en Amérique, mettait fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Mais hélas, tous les bénéfices des épopées de Frontenac, des exploits du baron de Saint-Castin, des efforts de d'Iberville, des Abénaquis, des Acadiens et des Canadiens étaient rayés d'un trait de plume. La France récupérait Port-Royal, mais rétrocédait le fort de Pemaquid, ainsi que tous les postes de Terre-Neuve, à l'exception de Plaisance. Les Anglais reprenaient le fort Albany, tandis que la France conservait la baie d'Hudson. Saint-Castin et ses alliés Abénaquis furent déçus. Ils ne faisaient pas partie du traité, alors qu'ils avaient fourni la presque totalité de l'effort de guerre en Acadie. D'un commun accord, les tribus indiennes de la côte Est décidèrent de continuer leur raid destructeur en Nouvelle-Angleterre. Puis on signa le traité de Pentagouet, un traité local, et les hostilités cessèrent, le baron redevenu un entrepreneur. Autour de lui, les jaloux étaient nombreux, il regagna la France pour essayer de régler des problèmes d'héritage, il laissait un immense empire peuplé de seulement 15 000 habitants français, plus les Indiens bien sûr, tandis que les Anglais, eux, n'avaient qu'un territoire restreint sur les bords de l'océan Atlantique, mais ils comptaient quelque 275 000 habitants qui profitaient d'une industrie naissante et de ports actifs. La guerre de la succession d'Espagne, 1700 à 1713, donc nous arrivons au XVIIIe siècle, éclate en Europe et la deuxième guerre intercoloniale, celle de 1703 à 1713, commença à faire ses ravages en Amérique. Les Abénakis attendaient leur baron toujours retenu en France. L'un de ses fils, Bernard Anselme de Saint-Castin, prit le commandement des Indiens. Mais en 1707, le baron disparut, frappé par la maladie. Il était en France. Il ne revit jamais son Acadie. La mort du baron marquait le commencement de la fin pour l'Acadie. Même si son fils fit le maximum, mais ne devint jamais un vrai chef Abénaki comme son père. Il se battit cependant avec un vrai courage. Le 16 avril 1713, en signant le traité d'Utrecht, la France condamnait à nouveau ses pauvres colonies d'Amérique. Avec ce traité, le traité d'Utrecht, elle laissait tomber la baie d'Hudson, l'Acadie, sauf les îles Saint-Jean et Royal, et Terre-Neuve. Les Anglais obtenaient ce qu'ils avaient toujours désiré, des voies d'entrée dans le continent nord-américain. Mais une clause moins connue de ce traité leur donnait une sorte de protectorat sur les Iroquois établis dans le centre du continent, au sud des Grands Lacs. De cette manière, les Anglais gagnaient un droit de passage et ils coupaient la Nouvelle-France en deux entre la Louisiane et la vallée du Saint-Laurent. On imagine le désarroi des combattants français. L'impressionnant royaume français d'Amérique s'émiettait tragiquement. La Nouvelle-France n'avait plus que 50 ans de sursis, et ça, c'est une autre histoire fort importante, bien sûr. Merci.